Voilà. Ah, ça c'est vrai, tiens, ça va être bien.
Elles sont belles, hein. D'ailleurs, c'est nouveau, non? Enfin, les asperges, elles arrivent maintenant, non?
C'est la pile de la saison. Ouais. On est en plein dedans, saison fugace.
J'en ai mangé en Suisse il n'y a pas longtemps.
Quand elles font ce petit bruit, là, ça c'est un indice de fraîcheur. Ah ouais. Voilà, elles crissent. Ah ouais. Ça veut dire qu'elles sont bien fraîches.
Ça alors.
Il y a de l'asperge blanche, de la violette et de la verte.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche à toutes et à tous. Humoriste, acteur, réalisateur, musicien et jardinier à 16 heures
perdues. Danseur de claquettes. Et danseur de claquettes.
Elise Semoun se met à table avec nous jusqu'à midi et demi. L'actrice Alice Belaïdi vient donner de la voix à notre table tout à l'heure. Elle a prêté la sienne à un film d'animation, justement. Emmanuel Rubin, notre gastronome en chef, sera de la partie avec de belles histoires de table. Et au fourneau, un jeune chef, il vient de Montreuil, de la Villa 9-3. Il a 25 ans, il s'appelle Camille Saint-Bleu. Et bien voilà, vous connaissez tout le monde. Bonjour Elise Semoun.
Bonjour tout le monde, salut Camille. Camille, très sérieux, qui est en train de regarder ses petites asperges. Non, il est en train de chercher quelque chose. Alors, il faut expliquer aux gens qu'il est un petit peu perdu.
Oui, on est en cuisine.
C'est la première fois qu'il est en cuisine. Alors, ça y est, il a trouvé. Et il prend sa petite cuillère. Et là, il est en train de la plonger dans un petit pot. Il a apparemment mis de la mayonnaise. Non, de la moutarde, pardon.
Pour faire une mayonnaise. Je
suis nul en cuisine. Je ne sais même pas reconnaître.
Pour faire une mayo, peut-être, hein, justement.
Exactement.
C'est vrai que nous sommes en cuisine. Vous faites bien de le dire, Elise Semoun.
On
n'est pas
en
studio.
En cuisine. Alors, c'est pour... Et je vous avoue, quand je suis arrivé, j'ai pensé que c'était filmé tellement. C'est un beau décor.
C'est vrai. C'est
ça mériterait presque d'être filmé.
Mais on pourrait, mais c'est
une chose que tu fais sur TF1.
Voilà, et puis c'est bien, on aime bien l'imaginaire de la radio que chacun s'imagine et on passera à la salle à manger tout
très
à l'heure.
Très beau plan de travail en marbre noir.
Exactement.
Une jolie assistante qui vient de m'offrir du thé.
C'est ça, on a bien reçu alors.
Et un ingénieur du son. Et puis voilà.
Comment ça va, Elise Semoun?
Très bien.
Le dimanche, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci en général sur les coups de
11h? Alors le dimanche, ça peut être c'est un jour spécial, vous savez. Hein. Tu pourrais te taire un peu là. Voilà. Alors le dimanche c'est un jour spécial dans le sens où ça peut être un jour de blues. Vous savez le dimanche c'est horrible.
Enfin, c'est le lundi qui arrive.
Les choses s'arrêtent, tout le stress de la semaine retombe et on peut. Donc ça m'arrive d'avoir des coups de blues. Mais quand j'ai pas de coups de blues, je suis dans mon jardin et j'adore ça.
Vous êtes un vrai jardinier, disais, c'est pas,
j'en ai même sorti un livre.
C'est ça, absolument.
Donc, j'adore ça. Et puis là, le printemps arrive. Donc, avant de venir vous voir, je regarde si j'ai pas les ongles noirs, mais j'ai arrosé mes plantes. J'ai mis des. Enfin, on n'est pas dans une émission de jardinage, mais des.
Si,
je vois les asperges, en fait, des prêles. Vous voyez ce que c'est, des prêles? En fait, ça ressemble à des bambous. En fait, c'est des plantes aquatiques. Et c'est très graphique, c'est très, très, très joli. Donc, j'ai planté ça dans des pots le long d'un escalier.
Jardinier ornemental, hein, vous êtes. C'est-à-dire que ce n'est pas le potager, pas, mais c'est les fleurs, les plantes. Et vous y connaissez beaucoup. Hein.
Oui, je m'y connais bien. Mais je vous avoue que non, je n'ai pas de potager.
On m'a dit que vous aviez des périodes, en fait, que vous aviez certaines périodes. Vous aviez des coups de foudre, par exemple, pour des oliviers, des coups de foudre pour des fougères. Et vous avez...
Les fougères, oui, ce sera mon coup de foudre éternel. J'adore cette plante, je la trouve très chic. Très classe, elle a une grande élégance et puis c'est une très très vieille plante, c'est une plante préhistorique, donc ça j'adore et c'est une plante d'ombre, c'est une plante un peu secrète, donc mais oui c'est vrai que je tombe amoureux de certaines espèces parfois, les camélias, les rhododendrons, les azalées, les phlox, enfin bon je pourrais vous en citer plein. Mais...
Vous dites pas j'ai une maison avec jardin, j'ai un jardin avec maison.
Hein. Exactement, quand j'ai acheté ma maison, j'ai d'abord acheté le jardin et après j'ai vu la maison. Je suis aussi passionné de jardinage que vous l'êtes de cuisine.
Ben oui, mais c'est bien, il faut avoir des passions. Ouais. Allez, il en a une belle de passion. Il a 25 ans. C'est Camille Saint-Bleu qu'on entend hein, avec
il
cette belle
gosse.
Mayonnaise maison. Qui est beau gosse, qui est grand. Vous mesurez combien, Camille, dites donc?
1m95.
Ah oui, ça
semble... comme moi, 94. Oui, ça va. On est à peu près de la même... Non, pas du tout.
Vous avez joué
J'aime
la même
pas
équipe
ce rire,
de...
là.
Vous avez joué dans la même équipe de basket, vous voulez dire?
Oui, exactement.
Alors, vous êtes un chef qui, évidemment, comme toute la nouvelle génération, aimait travailler la saison, cuisine maison, on l'entend avec cette mayonnaise. Oh, elle a une couleur orangée. Qu'est-ce que vous avez mis dans la mayonnaise, là?
On a juste mis les œufs et c'est les œufs de nos poules, en fait. Parce que nous aussi, on aime le jardin et on a un grand jardin, nos poules, nos agrumes, nos herbes aromatiques.
Aussi,
et donc, c'est les œufs de nos poules. Mmh.
Donc, c'est une belle mayonnaise. Vous êtes à la Villa 9-3, je le disais, qui était une maison montée autrefois par Stéphane Reynaud, qu'on a déjà reçu ici.
La Villa 9-3, alors ça veut dire qu'elle est où, cette villa ?
À Montreuil.
9-3. Ah oui, d'accord.
Ouais, à Montreuil. Okay. Qu'est-ce qu'on va manger, alors, racontez-nous, Camille ?
Alors là, on va manger les premières asperges blanches, juste cuites à l'eau, tout simplement, et après, on va les griller pour apporter un petit goût fumé. Et puis, cette mayonnaise, cette mousseline, donc on vient déjà avec un peu de blanc d'œuf. Et on mettra juste quelques petites tranches de cèdre confit, pareil, ça, du jardin.
Bien. Ah oui, vous allez allonger cette mayonnaise avec des blancs d'œufs montés en neige pour avoir une sauce mousseline qui va venir napper, où on pourra tremper nos asperges.
C'est ça, comme celle des parents. Parce que si on n'a pas la même sauce mousseline dans les étoilés, mais voilà, ça c'est la sauce.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que à chaque fois que j'écoute des émissions ou que je regarde des émissions de cuisine, moi qui suis nul, hein, mais je suis un être curieux. À chaque fois, les grands chefs font référence à leur grand-mère ou à leur grand-père.
Mais c'est toutes les générations.
C'est fou.
Parce que effectivement,
c'est machin que me préparait ma grand-mère ou ma tante,
raison.
Etc. C'est marrant. C'est une chose qui revient tout le temps.
Pratiquement tous les chefs qui sont passés ici à cette table parlent de leur mère.
La chance d'avoir des grands-mères.
Voilà. Mais c'est devoir faire aussi. C'est vrai qu'on a tous dans nos familles quelqu'un qui nous a montré des gestes, même si on n'a pas reproduit. Est-ce que vous avez quelqu'un?
Qui était du Maroc, faisait ce qu'il appelait une chlada. C'est très simple, hein. Moi je peux le faire, c'est poivron, tomate, oignon, et c'est un mélange de tout ça.
Un peu comme la tchatchouka,
là. Poivrons. Oui, c'est ça. Hein, il appelait ça la chlada, donc on peut considérer en effet que c'est un passage.
C'est quelque chose que vous pouvez reproduire. Quand vous dites « je suis nul en cuisine », vous cuisinez pas du tout ?
Honnêtement, ouais.
Vraiment ?
Je suis pas comme les mecs qui vous disent, quand on était à l'école,
oui.
« Ouais, merde, je me suis planté en maths. Ouais, mais tu viens d'avoir 17, Jean-Jacques. Ouais, mais non, je suis nul. Non, je suis réellement nul. »
C'est tellement ça.
Ouais. Et tu vois, hier, je me suis fait des surgelés. Enfin, c'est minable, quoi.
Ah ouais, dans votre frigo, il y a un gros congèle, alors.
Ouais, et encore, je déteste faire les courses.
Donc, vous mangez dehors, un petit peu ?
Oui, je mange dehors.
Voilà.
Et puis, quand j'ai la chance d'être avec une copine qui sait cuisiner, alors là, mais je me régale. J'ai une amie italienne qui fait des plats incroyables. Alors là, je suis fasciné. Parce que j'ai... Un peu aussi comme les mecs qui font du ski, qui ont des super équipements, mais qui se cassent une jambe. J'ai une super cuisine, avec plein d'éléments.
Bien équipé. Cuisine,
bien équipé, mais bon, voilà.
Voilà, mais elle sert de temps en temps quand même.
Ouais.
L'entrée, c'est l'asperge, donc, on l'a compris. Camille, qu'est-ce qu'on aura en plat du jour, en plat du dimanche ?
On nous a dit le plat préféré de Monsieur Semoun, donc on a fait un poulet rôti.
Ah bah ouais, voilà.
Ça vous plaît ?
J'adore. Bah, le poulet, je trouve ça génial.
Un poulet rôti,
c'est simple.
Façon Camille Saint-Bleu, quand même.
Oui,
hein,
bien sûr.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous revoilà en cuisine autour d'Elie Semoun avec le chef Camille Saint-Bleu
autour
au fourneau.
De l'asperge aussi.
Autour de l'asperge.
D'Elie Semoun et de l'asperge.
Et de l'asperge. Et Elie Semoun qu'on pourra bientôt voir en gendarme dans Captain
Marlowe.
Ben oui, le 1er avril.
C'est vrai que je suis là aussi pour ça.
Vous êtes là pour ça,
premier
pour faire
avril,
un peu de promo.
Ça va passer sur France
2. Exactement.
Et c'est la première fois que je tourne avec José Dayan, sous la direction de José Dayan et avec cette fofolle de Corinne
Maziero.
On s'est bien marré. Bah, ouais, elle est marrante. J'avais des a priori et en fait, ils sont tous tombés. Elle est sympa, marrante, intelligente, très surprenante.
Il paraît que c'est très agréable de jouer avec elle, effectivement, parce qu'il y a un vrai ping-pong. Oui.
Écoutez, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle a quand même cité dans le Capitaine Marlowe, elle m'a dit Merki.
Ouais.
Je me suis dit, mais on n'est pas du tout dans la bonne histoire. Et elle m'a parlé des petites annonces. En me disant, en plaçant, vous devriez faire des petites annonces.
Parce que vous jouez le rôle d'un gendarme.
Ouais, je joue le rôle d'un gendarme qui est un peu amoureux d'elle. Et y a une liberté chez elle de jeu qui est assez surprenante. Je me disais que le résultat, ça allait être n'importe quoi. Et j'ai vu l'épisode et je trouve que c'est un des meilleurs.
J'ai voulu regarder effectivement parce qu'on entend tout le monde en parler, comme vous dites, et on a tous des a priori et parfois des idées préconçues. Et j'ai regardé un épisode l'autre jour, je me suis laissé embarquer jusqu'au bout.
Et effectivement, c'est vachement bien.
Il y a un côté. C'est comme Columbo en fait, c'est un personnage qui vous embarque dans une histoire. Quoi.
Et on comprend le succès.
Et comment ?
On comprend le succès. Non, c'est formidable.
En préparant l'émission, je regardais votre filmographie conséquente, Monsieur Semoun. Vous avez débuté par la scène, le cinéma. Hein, c'était une envie depuis toujours ?
Oui, quand on est comédien, on a envie de faire du cinéma, on a envie de faire... Putain, j'ai peur qu'il se coupe les doigts, là.
Ah non, il taille du cédra.
Franchement, il est très, très fort. Hein.
Il est très habile. Et alors c'est vrai que vous les avez taillés d'une finesse, vos cédras.
Beau gosse, talentueux, un petit peu indifférent. Non, il est... C'est vraiment un salaud. Hein.
C'est Camille Saint-Bleu de la Villa 9-3 à Montreuil.
Donc, oui, bien sûr, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et surtout, j'ai réalisé mon rêve, c'est de réaliser, justement, j'ai réalisé deux films.
Du Cobu.
Les deux du Cobu.
Les deux derniers.
Le premier du Cobu 3, qui a eu un succès fou, et du Cobu président qui va passer.
Il sort quand alors
Le 13 juillet.
Le 13 juillet, voilà. Donc on aura déjà un président.
On aura un président, ouais.
Voilà.
Ils ont repoussé la sortie.
C'est ça, vous vouliez le sortir en avril.
Exactement. Hein, ouais. Je voulais le sortir en avril, mais c'est pas grave, c'est un prétexte.
Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, monsieur Semoun, tiens, Camille Saint-Bleu, qui avait 25 ans.
Oh, j'étais un peu jeune, mais c'était déjà une
figure. Je t'en remercie. Fais gaffe à ce que tu vas dire.
Les petites annonces, bien sûr.
Ah ouais. Dieudonné, non, Élie et Dieudonné, non, c'est trop vieux pour toi.
Non, mais bien sûr, c'était le début.
Les petites annonces avec Franck, ouais.
On entend les asperges qui crépitent là-bas, ce sera notre entrée. On va les tremper dans cette sauce mousseline. Vous les cuisez comment? Racontez-nous pour les auditeurs, les asperges, là.
Alors, les blanches, on les cuit juste à l'eau. Ça donne un côté très, très juteux dans l'asperge.
Et là, elles ne sont pas dans l'eau?
Non, elles sont dans une poêle.
Non, on les a blanchies. Ah. Par contre, après, on vient les refaire un peu sur le grill.
C'est pour donner ce petit côté grillé et la note métallique du fer.
Okay.
Voilà, combien de temps de cuisson dans l'eau? Alors très peu du coup.
En fait, on vient juste piquer la pointe du couteau dans la base. En fait, c'est important quand on les épluche, on vient casser le bois à la base pour être sûr de ne pas avoir du bois, du coup cette partie qui n'est pas agréable dans l'asperge. Et puis ensuite, on vient piquer juste au plus bas possible et dès que ça rentre sans problème.
Là, c'est la saison. J'en ai mangé, j'ai été en Suisse il y a quelques jours et on a mangé les premières asperges. Mais alors, elles étaient toutes fines. Elles n'étaient pas aussi grosses
que ça. Il y a plusieurs gabarits. Hein. Alors, il y a de la blanche, de la violette.
Incroyable, ça fondait dans la bouche.
C'est vrai qu'on aime les récolter jeunes et précoces aussi. Hein. On va les avoir pendant 2 mois avec nous. Et là, vous les grillez combien de temps dans cette poêle grill?
Juste les marquer un peu partout.
Et puis, sur toutes les faces, sur tout le tour. Quoi.
Après, on va rajouter un peu de thym.
D'accord.
Chose qu'on faisait avec Christian Lesquer, mon ancien chef.
Christian Lesquer, grand chef cuisinier breton qui est à Paris.
Exactement, et qui donne un goût assez incroyable.
Donc asperge fumée au thym.
T'as commencé à quel âge, toi?
Commencé à 18 ans.
Ah ouais?
Mais j'ai 26 ans. Hein.
Ouais.
Ah, on vous avait rajeuni d'un
menti,
an.
En plus.
Alors, à cette heure-ci, le dimanche, Élie Semoun, on aime bien donner un coup d'œil dans le rétroviseur pour mieux découvrir notre invité. Quel genre d'enfant vous étiez?
Assez solitaire, malgré le fait que j'avais un frère et une sœur. Et puis un petit peu rêveur. Je lisais pas mal. Le Club des Cinq, je me rappelle. Oui.
Dans les arbres, je crois, non?
Et j'étais souvent... Oui, on allait à la campagne chez mes parents. Ils avaient acheté un petit terrain. Et à 150 km d'ici, et je me réfugiais dans les arbres, ouais. Je ne sais pas si vous avez lu un bouquin qui s'appelle « Le baron perché » d'Italo Calvino.
Non.
C'est l'histoire d'un gars qui vit dans un arbre, qui ne veut pas en descendre. Et j'étais un peu comme ça.
J'avais ce fantasme-là de la cabane dans les arbres ou pas?
Oui, comme tous les enfants, j'adorais ça.
Parce que même aujourd'hui, les adultes peuvent réaliser ce fantasme.
Oui. Les adultes, c'est des enfants. C'est des enfants, en fait.
C'est ça. C'est des enfants
quoi? La taille des jouets.
Qu'on mal tourné ou qu'on bien tourné?
Il y en a certains qui ont mal tourné, ouais. Regardez Poutine, il a mal tourné.
Ah, il a
c'est un enfant qui a très mal tourné.
Très, très mal tourné.
Ah, ouais.
Vous écriviez des poèmes aussi, m'a-t-on dit.
Hein? J'écrivais des poèmes. J'étais... Oui, je tombais amoureux de n'importe qui, de ma prof de français, d'une copine de classe. J'étais très romantique.
Comment on passe des poèmes à l'envie de faire rire?
L'envie de faire rire, c'est très simple. C'est que les poèmes, c'était pour faire plaisir aux filles, enfin pour me faire aimer des filles, et l'humour, c'était pareil, ça a commencé comme ça. Après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus profond que ça. Mais au début, c'est pour séduire Agnès Charlemagne.
Vous avez des souvenirs de...
On a mon physique, il nous reste plus que l'humour, hein, vous savez.
Oui, mais ça marche, ça marche bien.
Ça marche bien.
Est-ce que vous avez des souvenirs de repas de famille du dimanche? Là, on est autour du déjeuner du dimanche midi.
Oui, alors la chlada dont je vous parlais, de papa... C'est surtout mes tantes qui étaient des grandes cuisinières. Vraiment, elles nous faisaient des plats qui venaient de là-bas, c'est-à-dire du Maroc, extraordinaires. Il y a des fêtes dans la religion juive qui sont importantes, par exemple Kippour, et on mange le soir après. Et alors là, mais C'est un feu d'artifice, c'est magnifique, c'est des plats incroyables que je ne pourrais pas vous citer, mais donc cette nourriture qui vient d'Afrique du Nord, qui est assez riche et assez folle.
Généreuse, et on passe du temps à table, effectivement.
Ouais, on passe beaucoup de temps à table. Ouais.
Ça sent le thym.
Oh là là, ça sent bon. Hein.
Ça y est.
Ouais, elles sont belles. Ah ouais, alors elles sont magnifiques. Vous les avez épluchées, là, les asperges blanches, hein, même si elles sont fraîches comme celles-ci. Ouais,
là, t'enlèves quelque chose, là, je sais pas quoi.
Ouais, je les ai épluchées un peu vite, donc j'enlève les dernières fibres qui peuvent gêner. Mais...
Elles viennent d'où, celles-ci ?
Elles viennent du Vaucluse.
D'accord.
Donc c'est une des plus belles régions pour faire les asperges.
C'est vrai que c'est une belle terre d'asperges. Hein.
Donc là, notre fournisseur, donc Jérôme Galis, nous a expliqué que de chaque année, en fait, ça change de... On se déplace de 10 km pour cultiver les asperges. C'est une culture assez spéciale, mais bon, voilà. Comme
ça met du temps à cultiver les asperges. Vous qui êtes passionné d'horticulture
et tout ça,
il faut faire des griffes pour les asperges.
Ouais.
Ça met 2-3 ans minimum pour qu'elles se développent sous terre avant de pouvoir monter. Ouais. Quoi. Et là, vous mettez des petits morceaux de cédra, de zeste de cédra par-dessus. Cédra confit.
Alors ça, c'est... on a les deux. On met un peu de cédra confit et juste un peu de peau de citron.
C'est quoi du cédra?
Cédra, c'est ces magnifiques citrons, ces gros agrumes.
Ah, j'en fais pousser.
Ah bah oui.
Ça fait comme des mains.
Alors ça, c'est la main de Bouddha, ça.
Alors oui, j'ai ça, moi.
Ça, c'est la main de Bouddha. Ah ouais. Mais le cédra, c'est l'agrume originel, en fait. C'est l'ancêtre du citron, c'est l'ancêtre de l'orange.
Si vous voulez goûter.
Ah ouais.
Vous voyez,
Mais ça se mange confit aussi, non?
Bah là, on les confit, là.
Ah, il les confit, là.
Ah, c'est... Bah ouais.
Mais c'est bien. Mais il faut tenir cette
ça,
réputation.
On est d'accord que c'est un couteau. Hein.
Non, c'est une fourchette avec les dents.
Ah, pardon, d'accord. Non, j'étais...
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Oh là là.
Qu'est-ce qu'elle est... Oh bah voilà, c'est comme à la fondue, j'ai pas... Bon, on a un gage. On a perdu nos morceaux d'asperges dans la sauce mousseline. Allez-y, allez-y, Elise et Moon. On se régale à la table du dimanche des asperges. On en plein dans la saison et on les trempe dans une sauce mousseline. Si vous prenez l'émission en cours, elles ont été cuites à l'eau bouillante et ensuite passées à la poêle grill.
Très, très bon. Hein.
C'est bon. Hein.
Alors, je viens de la faire tomber, là. Par contre, c'est un peu poivré.
Il est allé sur le poivre, Camille Saint-Meleu, de la Villa 9-3, qui nous régale. Et ça, ce ne sont que les préliminaires. Nous dégustons de belles asperges blanches. Oui, il vous a mis la dose de poivre.
C'est la cuisine du dimanche.
Excusez-moi. Ouais. Là, c'est au moins de l'antisémitisme. Il a voulu m'attaquer. C'est une attaque au poivre.
C'est pas beau, Camille.
C'est dégueulasse. Non, ça, c'est
sympa.
Moche. C'est pas beau.
C'est délicieux. Alors,
et on peut manger aussi. On n'arrête pas de la faire tomber.
Oui, mais c'est le gage. Je suis en train de me rendre compte d'une chose, Camille. J'ai vraiment dégusté les asperges de toutes les façons. J'adore ça, moi, les asperges. Je les ai cuites à la vapeur. Je les ai passées au four juste rôties. Je les ai dégustées à la façon d'un lapassard, cuites à la verticale avec du beurre fondu. Et c'est la première fois que je déguste comme ça, blanchi et passé à la poêle grill avec ce petit côté ferré, comme vous dites. Mmh. Hein. Ce petit côté...
On peut y aller ou...
Expliquez ce que ça veut dire, ferré. Allez-y, Ali.
Ça, c'est vraiment de les saisir fort sur une grill ou sur le barbecue. Ça peut être incroyable aussi, mais ça permet... En fait, le problème de la cuisson à l'eau, surtout sur l'asperge, c'est que ça vient la remplir d'eau. Et donc, le fait de les resserrer, en fait, ça vient refaire... Voilà, refaire évaporer.
L'eau repart, en fait.
C'est ça.
Alors, Elise et Moon, on vous retrouve dans Capitaine Marlowe le 1er avril sur France 2 à 21h10. Et puis, vous êtes sur scène également.
Le 1er avril, tiens, justement.
Oui,
malheureusement, là, on est dimanche.
Non, mais là, on est dimanche, mais vous serez le 31 mars à Lens.
Oui,
le 1er avril à Bourg.
Le 1er avril à Bourg, B-O-U-R-S.
Voilà. Le 16 avril à Pont-l'Abbé. Ouais. Et le 23 avril à Bruxelles. Et ensuite, le 29 avril à 7, avec votre spectacle. Là, on est sur la scène, hein, Ellie et ses monstres. Septième spectacle en solo.
Ouais.
Et on vient de l'entendre en tournée dans toute la France. Qui sont vos monstres, alors?
J'ai appelé ça des monstres. C'est un peu exagéré, mais c'est des gens qui sont un peu boiteux, quoi. C'est des personnages qui m'intéressent parce que quand on fait de la scène, je ne vais pas vous raconter un repas qui se passe bien ou un mec qui gagne au loto.
On rit des maladresses, rit des faiblesses, oui.
Donc on rit des faiblesses de tous les personnages que j'invente.
Alors tiens, je vais vous en parler de vos monstres parce que j'aime bien le pitch, moi, de votre spectacle. C'est pour vous, public, comme dirait Franck Dubosc. Alors voilà ce qui se passe sur scène. Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser une valse avec l'urne de sa mère, vous faire assister à une prise d'otage, sortir du coma au bout de 30 ans, tenter de reconquérir sa femme après 15 ans d'infidélité. Voici quelques thèmes du nouveau spectacle d'Elise Moon.
Oui, oui, bah c'est sûr que comme ça, sur le papier, ça peut...
Ah bah si, ça fait rire déjà. Ça... Parce que je vais vous dire moi, ce que j'aime avec vous, Elise Moon, parce qu'il y a une grande tendance... Oui, c'est noir, mais vous êtes un adepte de l'humour noir et de l'autodérision. Et ce que j'aime avec vous, c'est que vous continuez à jouer sur scène, en fait, des personnages. Vous incarnez des personnages et vous avez sa culture du sketch.
Ouais, c'est vrai que...
On n'est pas dans le stand-up où on déblatère sa vie.
Parfois, je trouve ça un peu facile, entre guillemets. Et c'est vrai que quand on sort d'un spectacle de stand-up, on a passé un bon moment. Je pense au spectacle de Gad. Mais souvent, on a plus de mal à se souvenir des vannes que des personnages. Alors que je crois que les personnages, on s'en souvient tout le temps. Je fais un handicapé moteur, je fais un médecin, je fais un type qui se plaint parce que sa femme aime trop le cul et il n'arrive pas à suivre le rythme, etc. Donc on peut se souvenir des personnages. C'est difficile de souvenir des vannes.
C'est vrai, exactement. Donc, ça marque plus.
Je trouve ça plus attachant, moi, les personnages.
Ellie, voilà. C'est Moon et c'est monstre sur scène en ce moment. Comment vous créez un nouveau personnage? Tiens, comment vous travaillez? Vous écrivez ou vous êtes chez vous, dans votre cuisine ou ailleurs, en train de le jouer?
Alors, je travaille toujours dans une cuisine. À chaque fois qu'on a écrit des sketchs avec Muriel Robin ou Franck Dubosc, les petites annonces, on les a trouvées dans une cuisine. On était autour d'une table. C'est marrant, comme je trouve que c'est un endroit hyper inspirant, la cuisine.
Et il y a la incroyable. Proximité peut-être aussi.
Mais oui, on est autour d'une table et puis on délire comme ça. On se lève, on fait des personnages... On se marre. Moi, j'adore partager l'écriture.
Moi, j'aime bien les repas.
La cuisine,
c'est
hyper convivial.
Dans les cuisines, où on est nombreux, même c'est si génial. C'est pas très grand, mais il y a un côté
il
effectivement proche.
Il suffit de se tourner pour aller prendre un plat, ou alors réchauffer un truc.
Tout est à portée
moi,
de main.
Manger dans un salon, c'est chiant. Manger dans une cuisine, c'est hyper convivial.
Bon, alors, on passera à la salle à manger quand même tout à l'heure avec Alice Belaïdi, mais on reviendra à la cuisine si ça vous manque. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, votre tournée, on en a parlé. Hein, je redonne les dates. Tiens, 31 mars à Lens, 1er avril à Bourg, le 16 avril à Pont-l'Abbé, le 23 avril à Bruxelles et le 29 avril à Sète. Question existentielle, tiens, quand on est humoriste et que j'ai envie de vous poser, Elise Moon, est-ce qu'on peut rire de tout?
Oui, si vous me dites ça, demandez ça à moi, je vais vous répondre oui, forcément, parce que dans mon spectacle, j'aborde des thèmes inabordables, vraiment. Le handicap, l'hôpital, la pédophilie. Il y a un mec qui revient, qui est là, « Oh non, je reviens de Thaïlande, là. » Non, j'ai pas trop visité, c'est plutôt les rapports humains qui m'intéressent. Donc on peut rire de ça aussi. Donc oui, je crois qu'on peut rire de tout, sans être méprisant, raciste, surtout méprisant, le public déteste ça. C'est avant tout, c'est un spectacle d'humour que je fais, les gens se marrent du début jusqu'à la fin. Donc oui, on peut rire de tout, puis le rire est libérateur, je crois, pour les gens.
Vous parliez de Muriel Robin, avec qui vous écrivez vos sketchs. Vous la connaissez depuis très longtemps, en fait.
Hein.
Vous avez
longtemps participé
à une troupe de théâtre ensemble à vos tout débuts.
Oui, oui, oui. J'ai commencé, j'avais 19 ans et j'en ai 58, donc faites le calcul, c'est horrible. Elle sortait du conservatoire. Son prof, c'était Michel Bouquet. Et moi, j'avais 19 ans, je sortais d'un cours de théâtre, j'étais... Et on s'est retrouvés sur une pièce classique qui s'appelait Les Folies Amoureuses. Et on était mis en scène par Roger Louret. Et on était dans le sud-ouest, Agen, Montclar, toute cette région.
La patrie du canard,
génial.
Du canard gras.
Exactement.
Alors c'est l'heure d'accueillir quelqu'un qui va être inspiré par vos activités de policier et de gendarme chez Capitaine Marlowe qu'on pourra voir bientôt sur France 2 le 1er avril. C'est Emmanuel Rubin. Bonjour monsieur
Rubin. Bonjour.
Bonjour. Le pauvre, il attend depuis tout à l'heure.
Non, mais j'attends en cuisine, donc ça va.
Ah ouais, il se nourrit, il grignote. Ouais. Emmanuel Rubin, c'est vrai, je le disais, vous êtes inspiré par l'actualité du capitaine Marlowe, hein, ce côté enquêteur, et vous allez nous parler d'un autre type d'enquêteur ce dimanche.
Oui, parce que cette semaine, mardi dernier, c'était la remise du fameux guide Michelin.
Alors, ah oui.
2022, le palmarès. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi on parlait d'inspecteur du guide Michelin et non pas de critique ou de chroniqueur gastronomique? Alors j'ai essayé de savoir un peu qui se cachait derrière ces drôles de personnages. On va voir.
Eh bien, réponse après la pause. Qui se cache derrière les inspecteurs du Michelin? C'est pas Elise Moon.
Non.
Non.
Ça, c'est sûr. Mais j'ai entendu un reportage justement là-dessus et c'est passionnant.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à la table du dimanche avec Élise Semoun. Si vous avez raté le début, vous pourrez le retrouver en vous abonnant évidemment au podcast sur europe1.fr. C'est Camille Saint-Bleu de la Villa 9-3 à Montreuil qui est au fourneau, qui nous régale. Bah, il n'y en a plus, hein, c'est pas compliqué. Avec
il en
des
reste
asperges.
Une, mais je ne sais pas qui va la manger, pour vous. Je pense que c'est moi.
C'est hein, vous, c'est l'invité. Je voudrais qu'on parle de cinéma. On a évoqué Ducobu tout à l'heure. Vous avez longtemps joué dans le film des autres. Et depuis Ducobu, vous tenez votre succès au box-office, comme on dit. Hein, plus $1,5 million d'ailleurs pour le dernier réalisé par vos soins. Il y a le prochain qui sort en juillet. Donc ouais. Ducobu, président. Ça y est, ouais. Il se présente alors.
Oui, bah, on a pensé que c'était justement comme on était dans une période électorale, on avançait dans une période électorale, on s'est dit que ce serait marrant de faire une sorte de parodie de ça. En fait, on avait envie de montrer, parce que Ducobu, c'est l'anarchie pour lui, il ne veut pas travailler, il veut tricher, il veut faire la sieste, il veut bien manger. Donc, il se fait élire président et puis il va s'apercevoir que ce n'est pas vraiment que pour tricher, on a besoin de règles. En fait, c'est un film assez très divertissant, très familial, mais assez moral.
Oui,
fait.
Et puis il y a plusieurs degrés de lecture et on peut le voir avec les parents et avec les enfants. C'est ça qui est chouette. Oui. Vous vous mettez donc en scène, vous réalisez vous-même ce film. C'est difficile de se remettre en scène
C'est pas évident. Franchement, j'ai un rôle important dans le film et c'est compliqué de tout d'un coup remettre la moustache de l'acteur et de laisser tomber la casquette du réalisateur.
Mais vous savez ce qui est drôle en même temps, parce que De Funès disait souvent j'ai pas besoin de metteur en scène, pourquoi il saurait plus que moi ce qui est drôle.
Exactement.
C'est génial cette phrase.
On a quand même besoin du recul,
oui.
D'un peu de recul, et heureusement que j'avais mon premier assistant pour m'aider.
Ouais. Vous entendez ce bruit?
Je vois.
C'est le bruit du poulet rôti. Alors venez, tiens, on va prendre notre micro, on va se rapprocher de cette cocotte parce qu'on sait que vous aimez le poulet rôti et le dimanche midi.
J'adore, je trouve ça très simple.
C'est le jour du poulet rôti.
La cuisine simple.
Ah, il est beau. Alors racontez-nous, Camille Saint-Bleu, poulet rôti en cocotte.
Poulet rôti en cocotte. Après, on est quand même clairement dans l'esprit du poulet rôti. La seule petite particularité, c'est qu'on l'a fait un peu plus printanier, on est allé mettre sous la peau un peu de beurre d'estragon.
Ah, vous avez contisé, comme on dit.
Exactement.
Voilà, c'est magnifique.
C'est beau ça, du beurre d'estragon sous la peau.
On dirait un tableau.
Combien de temps de cuisson? On dirait une belle nature morte, mais vivante.
Ouais.
C'est environ 45 minutes. Après, on l'a marqué avant de le passer au four, donc on est allé colorer légèrement la peau, les cuisses.
Dans la cocotte.
Dans la cocotte. Histoire d'avoir déjà une petite coloration.
Là, tu as mis de l'huile
mis le gras de la volaille. On a mis un petit peu de beurre et puis il y a le beurre d'estragon qui prend aussi le goût de cette volaille.
Ouais. Et vous l'arrosez là
Et là, on vient l'arroser à mi-cuisson.
Et à couvert ou à découvert?
À découvert.
À découvert dans la cocotte.
Voilà.
C'est pour vous tout à l'heure.
Impressionnant. On va me piquer la cuisse. Je
on va retrouver à table Monsieur Rubin. Le professeur Rubin qui a toujours quelque chose à dire. Et votre rôle de lieutenant de police dans Capitaine Marlowe l'a inspiré. Et vous allez nous parler d'un drôle de type d'inspecteur. Pas des commissaires, mais des inspecteurs. Et les inspecteurs du guide Michelin, parce que c'est vrai que c'était mardi dernier à Cognac qu'on a remis.
Qui sont-ils? Alors, la première chose, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose sur eux, parce que le problème du guide Michelin, enfin pour moi c'est un problème, c'est que ça reste très opaque. Et sur les personnes qui s'y activent et sur les méthodes. Alors, c'est vraiment des inspecteurs très officiels, du moins pour Michelin, puisqu'ils ont carrément une carte plastifiée où il y a écrit « Inspecteur Guy Michelin ». Attention, c'est très sérieux. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce mot. Et je comprends pourquoi, parfois, les chefs, quand ils entendent le mot « inspecteur », ils ont l'impression qu'il faut tendre les mains, vous savez, pour être menotté.
C'est
un peu le souci du Michelin. Alors, ce que l'on sait de pas grand-chose, si ce n'est que quand même, il serait à peu près... un pour quatre départements. Ça fait une 20 à 30 personnes. Alors, on le sait parce qu'en 2004, il y a un ancien inspecteur.
20 à 30 personnes pour toute la France.
Pour toute la France.
Ouais, c'est pas
alors, on le sait en partie parce qu'en 2004, un ancien inspecteur qui s'appelle Pascal Rémy a sorti un bouquin qui s'appelle « L'inspecteur mène l'enquête ».
Il l'a balancé.
Il l'a balancé. Bien ou mal lui en a pris, puisque très peu de temps après, il a été licencié. C'est vous dire
normal.
Qu'on ne blague pas chez Michelin. Alors oui...
c'est une institution.
C'est une institution, on va le voir, mais il ferait environ 240 repas par an. Autant vous dire que le taux de rotation est assez important chez ces inspecteurs, parce qu'on ne blague pas, on ne perd pas de temps. 240 repas, c'est quasiment un repas tous les deux jours. Il faut savoir que le guide Michelin, au final, c'est 4000 restaurants sélectionnés, 4000 hôtels. Donc oui, ça ne change pas. Leur profil, pendant très longtemps, c'était des anciens des écoles hôtelières qui avaient à peu près 10 ans de métier. Ils connaissaient la pratique. Et puis, on a un peu changé le profil de ces dernières années. Notamment, on va capter les commerciaux du groupe Michelin, qui est un groupe de pneumatiques, parce que ces commerciaux, ils sont sur le terrain. ils vendent des pneus, ils en profitent, paraît-il, pour faire aussi quelques restaurants.
Ah oui, oui, mais alors ils n'ont pas forcément les mêmes connaissances et compétences que
c'est
quelqu'un qui a la
découverte. Officiellement. Oui. Ah oui, totalement, totalement. Ça a toujours été.
Et ça appartient encore à l'usine de pneus, oui, absolument.
Non, c'est né en même temps, le Guide Michelin, en même temps que finalement l'automobile. Pour ceux qui ne sont pas du métier, il y a un petit stage de formation de quelques semaines pour les dégrossir quand même.
Ah, quand même, d'accord, ok.
C'est
voilà.
Pas normalement des incompétents.
Voilà, c'est ça, on leur apprend alors, à bien manger, c'est ce qui est pas compliqué.
Pour l'addition, c'est sûr, il la règle. Alors, il la règle pour une personne, autant vous dire que c'est pas gay, hein, se retrouver à table
seul.
C'est honnête de régler son addition. Après, je suis pas sûr que ça soit véritablement les meilleures conditions, puisque finalement, au restaurant seul, on y va très peu. Pour l'incognito.
C'est triste, hein,
ah oui, c'est, vous aimez manger seul.
Ah non,
ça fait un peu VRP. Hein.
C'est horrible. Non,
c'est triste.
On passe sa journée.
Mais il y a des gens qui aiment bien.
Son téléphone, quoi.
Oui, alors exactement. Maintenant, oui, en plus.
C'est horrible.
Mais il y a des gens qui aiment bien. Il y avait Jean Gabin, je fais une petite parenthèse. Jean Gabin qui habitait dans le 16e arrondissement, il y a encore un bistrot dans lequel il allait. Et il aimait descendre pour manger seul, mais il voulait pas être importuné. Donc il payait quelqu'un qui venait en face de lui pour manger et pendant qu'il lisait son journal. Voilà, je referme la parenthèse.
C'est génial.
Ah, là, c'est peut-être une technique pour les inspecteurs pour moins s'ennuyer à table. En ce qui concerne l'incognito, là c'est très bizarre. On nous dit qu'ils sont incognito, mais dans le même temps ils ont une carte. À quoi ça sert d'avoir une carte si tu es incognito? Faut bien à un moment donné que tu la sortes. Deux.
Oui,
pour beaucoup de chefs, et j'en connais de nombreux, ils m'ont toujours dit qu'en vérité, à la fin du repas, les inspecteurs Michelin s'annonçaient parce qu'ils voulaient voir les cuisines, interroger le patron, le chef. Donc l'incognito, bof, bof. Ensuite, dans leur méthode de travail, vous savez que la France est une grande province. Et donc, avant d'aller dans un nouveau restaurant, par exemple, ils enquêtent un petit peu dans la région, chez les petits commerçants, pour savoir si ce restaurant a oui ou non bonne réputation. Donc, autant vous dire que très rapidement, ils sont repérés. Et enfin, en ce qui concerne les boss du Guide Michelin, depuis quelques années, eh bien, ils s'exhibent. Notamment, cette semaine, on l'a vu encore, ils remettent leurs trophées en public. Donc, on voit leur trombine sur les réseaux sociaux, à la télé. Lorsqu'ils vont contre-enquêter sur les deux ou trois étoiles Michelin, autant vous dire qu'ils sont repérés fissa.
Et mais c'est encore un petit peu ancienne école. Hein. On a vu la cérémonie, c'était un petit peu
old
encore
school, ouais.
Old school. Hein.
À la limite, c'est pas grave s'ils sont repérés, puisque...
C'est pas grave, c'est juste, là encore...
T'as pas le temps de changer ta carte.
Je suis d'accord, moi, je pense pas que ça soit très grave, si ce n'est que pourquoi dire qu'on est incognito si on ne l'est pas.
Alors tiens, justement,
oui, bien sûr,
ça m'intéresse parce que vous êtes critique gastronomique au Figaro, dans le Figaroscope aussi, Emmanuel Rubin. S'il fallait noter, tiens, les inspecteurs du Michelin, quelle note vous leur attribueriez ?
5 sur 10. D'abord, parce que quand tu critiques, le minimum, c'est d'accepter la critique et ensuite d'être le plus transparent possible sur tes méthodes. Or, les méthodes Michelin, on ne les connaît pas, ils ne nous les disent pas. Et d'ailleurs, ça crée des vrais soucis chez les chefs parce que quand ils ont une étoile, ils sont très contents. Quand on leur retire, ils ne comprennent pas pourquoi. Ensuite, parce que moi, je pense qu'il y a aussi tant de travail pour arriver à un guide finalement qu'on ne comprend pas parce que tout est écrit en manière de hiéroglyphe dans le Guide Michelin. Ce ne sont que des pictos. Donc, tant de travail pour ne pas l'expliquer. Un critique, un chroniqueur, au moins, il a la force des textes.
Il argumente et détaille.
C'était la force, d'ailleurs.
C'est-à-dire, ils mettent quoi?
Des pictos. Alors, vous avez des petites pneumatiques, vous avez des petites fourchettes, vous avez des petites maisons, des petits pavillons.
C'est vrai que ce n'est pas très détaillé, argumenté. Mais il y a d'autres guides maintenant aussi. Hein.
Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait que dans les années 70, lorsque Goemilo a commencé à tailler des croupières au Guide Michelin, c'est parce qu'eux, ils expliquaient, ils racontaient leur table. Donc, moi, je pense que c'est le souci. Maintenant, je leur mets quand même la moyenne parce que je crois aux institutions que depuis 100 ans, ils n'ont pas complètement mauvais goût. Ensuite, qu'on leur doit un sacré personnage qui est Monsieur Duchemin dans L'Aile ou la Cuisse.
Et
c'est
vrai.
Que, tiens, ces jours-ci, un ancien inspecteur du Guide Michelin s'est reconverti en romancier. Il sort chez Grasset un livre qui s'appelle Chef, comme quoi le meilleur moyen d'entrer au Guide Michelin, c'est surtout d'en sortir et que ça mène à tout.
Ben voilà, oui, on sent que ça vous a un petit peu chauffé. Et restez à table avec nous, Emmanuel Rubin, parce que vous allez nous parler tout à l'heure d'un bad boy de la cuisine anglaise, en écho à Bad Guys, un film d'animation dans lequel joue Alice Belaïdi, enfin dans lequel elle double un personnage, Alice Belaïdi, qui nous rejoindra dans un instant. Vous aimez vous fier comme ça au guide pour aller au restaurant ou pas du tout, Ellie?
Je suis un mauvais client, hein, mais oui, enfin non. Moi, c'est le bouche à oreille. J'ai jamais ouvert un bouquin pour savoir où il fallait manger. Mais en général, oui, quand je vais tourner, quand je vais jouer dans une ville, je me renseigne pour savoir quel est le meilleur restaurant. À Bordeaux, à Montpellier, à Marseille. À Marseille, d'ailleurs, j'ai été sur le tournage dans lequel Alice joue aussi. Et on est allé dans une institution, ça s'appelle chez Étienne, je crois.
Bien sûr, oui, les pizzas, magnifiques.
C'est génial, une ambiance, mais les pizzas sont super bonnes, la viande est magnifique, le dessert, la tarte aux pommes.
Étienne, à Marseille, c'est le quartier du Panier.
Incroyable.
Exactement, et surtout Étienne qui n'aura jamais les honneurs du Guide Michelin. Et je pense que c'est un des problèmes du guide, c'est de ne pas sanctifier ce genre d'adresse.
Alors, c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, mais là,
bah voilà. Oui, sauf que c'est un genre de restaurant, la pizzeria.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. Nous sommes toujours en compagnie d'Elise Moon avec Camille Saint-Bleu en cuisine. On s'apprête à déguster un poulet rôti en cocotte avec ce beurre d'estragon sous la peau.
Génial.
Quelle garniture tient au fait avec ce poulet rôti? Racontez-nous, Camille.
Alors, on va faire le riz pilaf. On va retravailler un petit peu. Travailler là un riz à sushi pour avoir ce côté plus. Le grain plus collant. Et puis après, on vient le condimenter avec plein de petits. Un peu d'échalotes croustillantes, du riz soufflé.
Réexpliquez-nous ce qu'est le riz pilaf, tiens.
Alors, le riz pilaf, c'est donc un riz qui est cuit dans une cocotte. Donc on vient suer les échalotes. Après, mettre le riz, déglacer avec un peu de vin blanc, de fond de volaille, et on vient cuire ça au four.
Comme un risotto, il va absorber continuellement le bouillon et le vin blanc.
C'est ça, et il vient cuire autant à la vapeur qu'avec ce fond de volaille. Donc on a une texture un peu particulière, mais qui est assez bonne.
Vous faites partie de ces jeunes cuisiniers qui travaillent la saison. Qu'est-ce qu'on mange en ce moment chez vous à la Villa 9-3 du côté de Montreuil?
Alors nous, on cuisine vraiment beaucoup les produits de la mer. Là, on a l'araignée de mer en ce moment. On a lieu travailler l'oursin encore un petit peu, et puis après évidemment les légumes, les belles asperges, la conserve avec un riz de veau, on vient les cuire donc les vertes avec une croûte de caséine, donc qui est la protéine du lait. Voilà, on vient vraiment une cuisine de produits, de travailler au plus simple, mais on essaye de mettre le maximum à l'honneur.
Bon, on est heureux de vous avoir à cette table.
Et impressionné.
Ça part bien avec
un
les
artiste,
belles aspects.
Hein.
Un artiste, exactement, il s'exprime très
le
bien.
Le condimenté. J'ai jamais entendu cette expression de ma vie, mais ben on voilà. Vient le condimenter.
C'est ça, exactement. L'assaisonner, mais encore autrement, effectivement, avec un condiment. Marrant. On va parler de vos influences en musique, parce qu'on le sait, vous êtes un musicien, vous avez même fait plusieurs albums.
J'ai fait trois albums de Bossa Nova. Ouais. Je ne suis pas musicien, mais c'est pas grave, je chante, quoi. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les compositeurs. Je comprends même pas comment ils font pour trouver une mélodie sur mes textes, texte en général. Mais...
Vous avez fait trois albums et je suis en train de penser qu'il y a même une chanson sur le dimanche dans un album.
Oui, exactement, hein, qui avait été, dont la mélodie avait été trouvée par Henri Salvador.
Dans un jardin au loin, j'entends des cris et des rires d'enfants. En ce dimanche après-midi, ma vie s'étire au ralenti.
Alors, je vais vous faire écouter trois musiques et vous allez me dire à quel moment de votre vie elles correspondent ou tout simplement ce qu'elles évoquent pour vous. On va commencer, tiens.
Alors oui, Wagner, j'ai une passion pour Wagner, qui était un... Preuve que je ne suis pas rancunier, hein, puisque on sait ce qu'il était. Ouais, on sait ce qu'il était. Donc oui, j'ai une passion pour cette musique, pour l'opéra. Je l'en écoute tous les jours. J'adore ça.
Et c'est vrai ou c'est une boutade que vous dites que vous aimeriez qu'on le diffuse à vos funérailles?
Oui. J'en suis pas encore là.
Non, mais voilà, on a.
J'aime beaucoup la tétralogie, la Valkyrie, le Crépuscule des Dieux, Siegfried, l'Or du Rhin. J'ai une passion et j'ai même été jusqu'à Bayreuth, à ne pas confondre avec Beyrouth, pour écouter cette musique. Donc c'est un truc de fou.
Une vraie passion.
Une vraie passion. Je vais au bout.
Un autre extrait pour vous, Elise Moon.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux.
Donc Daniel Guichard, mon vieux.
Mon vieux.
Je trouve que c'est une chanson magnifique. Vous voyez comme quoi on peut passer de Wagner à Daniel Guichard sans problème.
Elle est magnifique.
Tant que ça donne des frissons, de la chair de poule, et on va en manger tout à l'heure, j'en suis ravi.
C'est quelque chose que vous partagez d'ailleurs avec Franck Dubosc, qui adore cette chanson aussi.
Ouais.
Elle l'émeut à chaque fois.
Il est à fond.
Et d'ailleurs, mon vieux, c'est le titre du très beau documentaire, du très beau film que vous avez donné
à votre papa. Tout à fait.
Sur la maladie d'Alzheimer, qui est très très beau documentaire, qui était un très très grand succès, qu'on peut voir encore.
On le verra sûrement au cinéma en septembre.
D'accord.
Je vais essayer d'aller le défendre. C'est pas évident de défendre des documentaires, mais c'est.
Nous sommes nombreux à être concernés par cette maladie. Maladie, hein. Et puis elle est terrible pour ceux qui sont autour, pour l'entourage surtout.
Ça fait des dégâts.
Un autre titre qu'on écoute avant d'accueillir Alice Belaïdi.
Oh merde, ça c'est la mauvaise nouvelle.
Alors
ça, c'est de la bossa nova. Ouais. C'est chanté par João Gilberto. J'ai une passion, voilà, j'ai une passion pour la bossa nova. Je trouve que c'est une musique hyper sexy. Elle raconte des choses sous des dehors un peu légers. Elle raconte des histoires d'amour qui se finissent mal, un manque, la tristesse, etc. Mais je trouve ça génial.
Très sensuel, c'est vrai.
Hyper sensuel.
Eh ben on va lui demander tiens, si elle aime la bossa nova
parce qu'elle
nous retrouve. C'est la comédienne Alice Belaïdi qu'on est heureux d'accueillir à cette table. Bonjour Alice.
Bonjour.
Bienvenue, vous arrivez à l'instant. Alors ça fait plaisir de vous accueillir.
Merci de m'accueillir.
Alors, Alice Moon, Alice Belaïdi.
On a tourné dans le même film d'Adrien Piquet.
Exactement, voilà. Mais on ne s'est pas croisés.
Mais on ne s'est pas vu.
J'allais demander si vous connaissiez. Alors,
Est-ce qu'il t'a emmené chez Étienne alors?
Ah non, moi il ne m'a pas emmené chez Étienne.
Ah ouais.
Ben merci Adrien, c'est sympa si
voilà,
vous écoutez.
Bah c'est moche.
Vous connaissiez avant ou...
Ouais, on se connaît un peu.
On s'est déjà rencontré quand même.
Oui, carrément.
On vous a découvert, Alice, dans la série Working Girl sur Canal+. Vous avez fait une belle ascension au cinéma sous les jupes des filles, les gorilles, Si j'étais un homme. J'ai vu dernièrement, moi aussi, un film de Pierre Jolivet qui s'appelle Célia et Victor.
Victor
et Célia,
ouais.
Où vous jouez le rôle d'une coiffeuse. Voilà. C'est une belle histoire d'amour, c'est une comédie romantique dramatique à la fois.
Exactement, c'est une comédie sociale trop sympa qu'on a adoré faire.
Et puis on vous adore en interne débordée et puis débordante d'enthousiasme dans Hippocrate. Il y a la saison 2 sur Canal+, qu'on peut voir.
Et puis pendant le confinement aussi, avec Loïc, non?
Ouais, exactement.
Loïc Legendre qui a tourné dans mon film.
C'était quoi, Allô, au secours, on s'est bien marré.
Vous avez commencé tous les deux par le théâtre, hein, ça c'est un point commun, parce que vous avez fait du théâtre tôt et longtemps, Alice Belaïdi.
Ouais, je suis avignonnaise, ça aide un peu sur les premiers jobs, quoi. Donc j'ai commencé avec le théâtre chez Gérard Gélas à Avignon, ouais.
Et vous venez nous voir pour Bad Guys, un film d'animation alors, qui met en scène un loup, un piranha, un serpent, un requin et une araignée qui braquent des banques jusqu'au jour où ils se font avoir. Et vous prêtez votre voix à la gouverneure, qui est une renarde, donc rusée, qui va leur accorder un sursis à une condition. Hein, j'ai bien suivi.
C'est d'être gentil, c'est ça?
C'est ça, c'est d'être gentil, voilà, d'arrêter de braquer des banques. Non, mais c'est marrant parce que c'est un film d'action, ça n'arrête jamais, c'est un film d'action et d'animation à la fois.
Ouais,
quoi.
C'est génial. Et en même temps, il y a un vrai fond, mais comme tous les DreamWorks, pour le coup, on sort de là, voilà, on a quelque chose à raconter à son enfant et à soi-même sur la différence, sur quelle image on projette de nous, qu'est-ce que c'est que d'être un méchant ou un gentil aujourd'hui. Donc je me suis éclatée à faire ça, mais ça faisait des années que j'avais envie de doubler un personnage de dessin animé, parce que je suis très preneuse de... je regarde ça avec... je sais que toi, Ellie, tu as eu la chance de faire plein de fois.
Moi, j'ai fait Sid dans L'Âge de glace. Et justement, ça va passer bientôt sur... je ne sais pas si c'est sur Disney, mais en tout cas, il y a un nouvel Âge de glace qui va être diffusé à partir du 25 mars. Je ne sais plus sur quelle plateforme, il y en a tellement.
Je ne pense pas que
ce soit Netflix, je ne pense pas que...
Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice-là du doublage?
Comme Alice... C'est une bouffée d'oxygène dans notre métier. Se retrouver face à un micro et puis inventer... Je ne sais pas si tu as maquillé ta voix, toi.
Oui, parce que le personnage doit... Justement, il est un peu changeant.
Elle va flirter avec le mal, c'est un bien grand mot, mais avec
Elle est gouverneure, mais finalement, elle cache bien son jeu. Donc, il y a un côté gouailleur qui... Je me suis éclatée, parce que tu es vraiment dans une boîte noire. Personne ne te voit.
Non.
Et tu peux faire n'importe quoi.
On est seul, c'est ça qui est frustrant.
Ouais,
Alors, il y a toujours une distribution géniale. Je ne sais pas qui a joué avec toi.
Il y a Pierre Ninet, Igor Gontesman.
Sauf que tu ne les as pas vus, quoi.
Non, on s'est envoyé des textos le soir en disant t'as kiffé, toi. Ouais.
C'est frustrant. Moi, j'avais Lanvin et Cassel, on ne s'est jamais vus. On se voit aux promos, par exemple, mais c'est un peu frustrant. On est tout seul.
Mais...
Parce que c'est trop le bordel sinon. On ne peut pas jouer ensemble, en fait. C'est trop compliqué techniquement.
Techniquement, je crois qu'il
faut vraiment
les
voir. Parce que si tu te plantes sur ta ligne et que l'autre est bon et que toi t'es mauvais, il faut tout refaire, en fait. C'est comme un plan séquence, quoi.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Merci d'être là depuis 11h si c'est le cas et bienvenue si vous venez d'arriver. C'est la table du dimanche d'Elise Moon et Alice Belaïdi nous a rejoint. Deux comédiens et deux voix, vous l'entendez. On parlait du doublage que vous avez fait tous les deux. On vous retrouve dans Bad Guys qui sort le 6 avril, Alice Belaïdi. Et en cuisine, Camille Saint-Meleu, que vous avez croisé en arrivant, le chef de la Villa 9-3 à Montreuil. Il nous a régalé avec des asperges blanches de compétition.
On a tout bouffé, je suis désolée, mais c'est super bon.
Non, mais je sais, je suis arrivée. arrivée, j'ai voulu goûter, il n'y avait plus rien.
Il y a plein du jour qui arrive pour vous.
Cool.
Poulet rôti en cocotte avec un beurre d'estragon sous la peau et en garniture, redites-nous ce beau riz pilaf, Camille.
Un beau riz pilaf, juste avec plein de petits agréments, un peu d'échalotes frites, un peu d'eau.
Condimenté, je crois.
Condimenté, pour reprendre les mots.
Un petit peu troublé par Alice, parce qu'il n'était pas comme ça avec nous. Hein. Tout à l'heure, il était frima et tout, puis dès qu'Alice est là, il est là, oui.
Vous cuisinez, Alice?
Ouais, j'aime bien ça. Après, je vis toute seule, donc me cuisiner des trucs, j'ai un peu la flemme. Mais j'adore cuisiner pour les autres, ouais. J'aime beaucoup ça.
Est-ce qu'il y a des plats qui ont compté dans votre enfance? On parlait des plats marocains qui ont compté pour Ellie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des plats qui ont compté pour vous dans votre enfance?
C'est plus Algérie, mais oui, c'est ça. C'est les plats de mon père, quoi. La chorba de mon père, je peux faire 700 bornes aller-retour en bagnole
cette
pour aller...
Cette soupe algérienne, magnifique. Ouais. Ah, oui. Ouais. Bien relevé, hein, du coup
Ouais, moi, j'aime pas trop quand elle est relevée, donc il l'a fait un peu, c'est à la
ils
tête du
ça,
client.
Hein. Moi, mon père, il adorait mettre du piment partout.
Mon père, il met de la harissa, mais dans son bol à lui.
Oui,
quoi.
Oui, oui, c'est ça.
Voilà, chacun... Mais oui, les plats de mon père, en général, même on a le ragoût de mon père, quoi. C'est des patates, du poulet, et c'est... Et je n'arriverai jamais à faire les plats de mon père. Même, parce qu'il me dit, tu mets un peu de ça, un peu de ça. C'est très approximatif. Donc, il n'y a pas vraiment de recette de famille. C'est un truc... Mais ouais.
Vous n'aimez pas cuisiner pour vous toute seule, vous dites, mais vous aimez quand même cuisiner de temps en temps pour recevoir des copains ou faire des plats rassembleurs ou...
Ouais, je trouve que de toute façon, ça rassemble et c'est joyeux. Et c'est pour le coup, c'est le summum de faire plaisir aux gens qu'on aime, c'est de les faire bien manger, quoi. Donc après, j'ai un vrai problème avec les desserts. Je suis extrêmement mauvaise en dessert. J'ai voulu mettre tout mon cœur... Ça prend jamais.
Écoutez, il y a un dessert pour vous, spécialement, qui va arriver tout à l'heure, que nous sommes allés chercher dans un endroit particulier.
Ah, génial.
Je ne vais pas en dire plus, mais ça devrait vous plaire aussi, Elise.
Ah ouais,
qu'est-ce que vous aimez comme dessert?
Parce qu'elle vous a dit ce qu'elle aimait comme dessert.
Oui, exactement, on s'est renseigné. Enfin, on a réussi à savoir.
Il ne faut pas se planter.
J'aime ce qui est à base de chocolat. Ah. Il m'arrive d'essayer de faire des cookies et puis c'est comme toi, Alice, c'est une catastrophe.
Ça se colle, ça s'étale.
Ouais, ça s'étale.
Ça rassemble pas tellement ce genre de truc.
Je fais un cookie géant.
Cookie
quoi.
Géant, je le connais, je fais le même cookie, ouais, exactement.
On l'entend, vous avez deux voix tous les deux. Vous travaillez votre voix, par exemple, avant de jouer un rôle, avant de faire, par exemple, du doublage comme dans Bad Guys
Étonnamment, en fait, la voix, elle vient toute seule et c'est souvent quand on... Moi, quand je vais refaire des voix, ce qu'on appelle la post-prod après sur un film, parfois on a besoin de réenregistrer un mot qui a mal été enregistré ou quoi... Je suis étonnée d'entendre la voix que j'ai prise pour le personnage. Ça me dépasse un peu, en fait.
Et tout passe, hein, dans la...
Par la voix.
On peut tout comprendre, hein,
ouais,
par
complètement.
La voix de quelqu'un. Il y a des gens qui ont des voix bêtes. C'est vrai.
C'est vrai.
J'ai une copine un jour, et
vrai,
je lui dis, alors il te plaît, ce mec
que vous me le dites.
Non, il ne me plaît pas, mais il a une voix bête. Il y a des gens qui ont des voix bêtes. Je sais pas pourquoi.
Et on dit
y a
que la voix, elle reflète de l'âme, donc c'est compliqué.
Oh là là,
il arrive. Le poulet rôti du dimanche. Alors là, on vous met les photos que vous allez pouvoir voir sur europe1.fr et sur le groupe Facebook des bons vivants aussi. Hein. C'est la même adresse que pour l'émission du samedi. Alors là, c'est magnifique.
Ouais, c'est sublime.
Présentez-nous ce vrai plat du dimanche, Camille Saint-Meleu.
Alors,
comme ce n'était chez vous à la Villa Neuve-Trois, qu'est-ce que vous nous dites pour nous le présenter?
Bonne continuation.
Et c'est gratuit en plus.
Et c'est... Vrai, j'aime pas énumérer, j'aime bien juste dire les ingrédients. Non, mais c'est vrai que c'est...
Hein, toujours un petit peu impressionné par Alice. Hein. On voit qu'il a complètement changé d'attitude. C'est de pire en pire, il perd tous ses moyens.
Hein. Non, mais voilà, le poulet, le riz. Après, on vient juste le condimenter avec deux sauces pour le coup. Donc, on vient récupérer le jus de poulet rôti qu'on va servir dans le riz. Et donc ici, un velouté de volaille. Donc on fait une autre sauce que j'aime beaucoup, qui est pareil, montée avec un petit beurre d'estragon, donc pour rafraîchir ce plat.
Et puis vous le présentez d'une manière assez étonnante, parce qu'il y a les pâtes que vous avez gardées, qui sont
en l'air,
on ne voit plus, c'est une vieille façon, on ne la voyait plus du tout.
Comme une poularde.
Exactement comme une poularde. Moi je trouve que ça rend quelque chose d'assez spectaculaire finalement. C'est un vrai plat de partage. Là.
Et cette peau bien grillée et tout ça,
cuisine, hein.
On vous laisse le découper.
Bravo de le servir comme ça, le poulet en entier.
Oui, il nous l'a présenté entier, on va le découper et puis on va le déguster ensemble avec Alice. On le sait, vous avez du tempérament, vous êtes une nature, Alice Belaïdi, on l'a découvert avec, je disais, la série Working Girl sur Canal+, et puis Sophie et Sophie, ces deux standardistes. Vous n'avez jamais pensé à faire de la scène, à monter sur scène pour faire des sketchs, par exemple, comme Ellie?
Non, je me sens incapable de faire ça. J'ai eu la chance de monter avec Florence Foresti sur scène quand elle avait fait Bercy. Elle avait inviter des acteurs comme ça ou des chanteurs à venir sur scène avec elle. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, ouais, mais ils sont fous.
Confirmation.
C'est, fin, c'est, vrai.
C'est ouais, pas ouais. naturel de monter seul sur scène comme
Puis
ça.
On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces centaines de personnes Ils viennent juste pour moi, ils se font chier, ils ont fait garder leurs enfants, ils ont galéré pour trouver l'endroit.
Et puis garder ce rythme de comédie sur scène une heure et demie comme ça, enfin c'est... Non, et puis après tu rentres chez toi, t'es tout seul alors que t'avais 100 000 personnes dans la...
Ça, c'est,
enfin, c'est quand même ça, franchement, c'est une sacrée vie quoi.
C'est dur ça, il y a une vraie solitude après la scène.
Ah oui, sans, je veux pas faire pleurer dans les chemins.
Non, bien sûr,
Mais c'est tellement bizarre. Là, je me rappelle avoir joué à Rennes, il y avait 1500 personnes aux Libertés. C'est un... Et ben voilà, après tu rentres, tu fais un autographe avec à un type, et puis tu rentres à l'hôtel et ben tu te demandes ce que tu viens de faire quoi. C'est très très bizarre.
Qu'est-ce que j'ai regardé à la télé
Alice Belaïdi, on voit sur les réseaux que vous voyagez pas mal. Hein. Vous aimez, j'ai vu sur Instagram la Martinique apparemment. Il y a des plats que vous avez découverts en voyage en Martinique.
Ouais, il y a plein de plats que j'adore en Martinique. Il y en a d'autres que j'aime moins. Enfin, le calalou par exemple, c'est le genre de
calalou.
Ouais, c'est
je sais pas.
C'est
connais pas.
Fruits à pain comme ça, donc c'est assez gluant comme ça. Il y a des plats comme ça dont j'ai un peu de mal, les plats locaux.
La consistance là.
mais je les mange quand même avec plaisir. Après, moi je suis très poulet, riz, haricots rouges. Donc ça me plaît grave, leur poulet boucané et puis les fruits. C'est voilà, de toute façon, ce qu'on voit là, l'avocat que tu ramasses sur son arbre, le fruit de la passion.
C'est le jardin d'Éden, il y a tout
voilà,
à portée de main.
C'est exactement ça.
Quel est votre plat préféré, vous?
Ça dépend des saisons, mais moi, c'est vrai que j'ai un plat que j'adore qui est le pot-au-feu. Parce qu'il y a des viandes de goût et de texture différentes. Et puis, il y a ce côté bouillon que j'aime beaucoup et les légumes. Voilà. Mais c'est plus un plat d'hiver. Mais là, c'est vrai qu'en saison comme ça, les asperges qu'on a dégustées pour ouvrir l'émission, là, c'était fantastique. Non, il en reste un petit peu. Ah. On lui donnera avec le dessert. Quel genre de mangeur êtes-vous, Elie Semoun?
Je picore et puis parfois quand ça me plaît je peux tout finir, mais je suis pas très honnêtement je me demande ce que je fais dans cette émission parce que je suis pas, non mais c'est très agréable, mais je suis un peu nul.
On n'est pas obligé de savoir cuisiner pour venir dans cette émission. Okay. C'est un autre cas d'embauche pour Robuchon.
Là de toute façon je serais pas pris, mais
pas appelé non plus hein.
Non, je peux manger un plat vraiment très finement et très subtilement cuisiné, comme je peux manger un McDo. Donc je n'ai pas de... C'est horrible, mais je... Voilà.
Vous avez joué dans la série Hippocrate, Alice Belaïdi. Vous jouez ce rôle d'une interne vraiment débordée et qui assure à chaque fois qu'il fait face aux situations compliquées. J'ai l'impression que c'est un gros rythme de tournage. Ça, comment ça se passe, une série comme celle-ci? Parce qu'il y a une vraie intensité, j'ai le sentiment.
Je crois qu'on est vraiment dans le char d'assaut de notre réalisateur Thomas Lilti, qui bosse comme un fou, qui n'a jamais une séquence tant qu'il n'a pas la séquence qu'il a dans la tête. C'est un travailleur acharné et on le suit avec plaisir. Donc là ça a été quasi 9 mois de tournage entrecoupé à cause du Covid. Donc voilà.
On mange sur le pouce ou on a le temps de manger?
Ouais, on n'a pas tant le temps de manger que ça, mais on a une cantine qui nous attend avec nos heures sup.
À Marseille, on avait une cantine fantastique.
Ouais, exactement, une superbe cantine.
En fait,
une
cantine, c'est une sorte de tente qui est...
Qui nous suit, ouais.
Qui nous suit sur tous les tournages. En Belgique, j'avais aussi une très très bonne cantine.
C'est très important, tous les réalisateurs le disent, d'avoir quelque chose de qualité pour ressouder les équipes aussi quand on a des grosses journées.
C'est vrai que nous, en tant qu'acteurs, bon, si t'as envie d'un truc, on te l'amène, tout ça, mais il y a surtout des équipes qui portent, qui font des tafs manuels hyper physiques sur les plateaux. Je pense aux machinaux, aux électros, à tous ces postes-là. Et quand tu as une bonne cantine et qu'il y a la pause repas, tu sens qu'il y a...
Ça soude l'équipe.
Ouais, voilà, il y a un moment de joie comme ça autour de la bouffe qui est hyper important. Ouais.
Alors, le poulet rôti est pratiquement découpé. Oh, il détache le solilès. Vous connaissez ça, ce petit morceau?
Ah non, c'est une maladie.
On se battait pour l'avoir avec mes sœurs.
Sous la carcasse, c'est fondant.
Et on dit que c'est la meilleure partie.
Et on l'appelle comme ça, vous savez pourquoi?
Non.
Parce qu'il y avait toujours quelqu'un à table qui le laissait sous la carcasse et on disait « Oh, le saut, il laisse !»
Ouais, il y a des voix bêtes.
« Oh, le saut, il laisse !» Moi, je vais le manger à sa place, alors.
L'aile ou la cuisse, Alice Delahidy? Ou du blanc?
Je suis plus blanc, moi. Mais
eh ben voilà. On va vous servir du blanc. Et vous, Alice et Moon?
On va dire l'aile.
L'aile? Eh ben, très bien.
Enfin, la cuisse.
Non. La cuisse?
Ah non, c'est pas pareil.
Ah non, c'est pas pareil.
Ah,
c'est
tout mélange. Non, ah ben mais voilà, ça, c'est très bien.
Eh ben, vous
un
aurez
peu de chaque, c'est parfait, ouais.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Dernière partie de la table du dimanche. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Et merci d'être là avec nous depuis 11h, si c'est le cas. Nous faisons connaissance, voilà, comme on le ferait à la maison, avec Elise Semoun et Alice Belaïdi qui nous a rejoint avec son film d'animation qui s'appelle Bad Guys, dans lequel on retrouve aussi Pierre Ninet. Ça sort le 6 avril. Et vous êtes éclaté dans ce rôle de renarde qui s'appelle Diane Foxington, c'est
exactement.
Ça, hein,
ouais.
C'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Rusée, la renarde. Hein.
Ouais, rusée et pas que. Elle est... Non, elle est empathique, elle est gentille, elle est drôle. C'était un super personnage à incarner.
J'ai lu en préparant l'émission, Alice Belaïdi, que vous aviez eu une enfance un peu hippie.
C'est vrai, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire alors?
Bah, j'ai des parents, un peu ce qu'on appelle des hippies, quoi, mais en même temps qui sont visionnaires pour moi. Ils prennent l'amour de la nature, des autres, des animaux. Voilà, ma mère, par exemple, il y a 30 ans, ne mangeait pas de viande. Moi, j'avais honte de le dire à l'école parce que c'était en norme. Et aujourd'hui, on se rend compte que...
Bien sûr, qu'il faut manger moins de viande, mieux élevé.
Je crois que j'avais vraiment des parents visionnaires et en avance, quoi. Donc, ils nous ont évidemment aussi laissé une forme de liberté.
C'est ça.
À choisir la vie qu'on avait envie de vivre et de l'amour, quoi. Donc,
d'où votre tempérament aussi, cette franchise, cette honnêteté, cette sincérité qu'on retrouve aussi dans vos rôles, souvent.
J'arrive pas trop à faire autrement. J'essaie avec l'âge de moins donner mon avis, surtout quand on me le demande pas, mais j'ai toujours un peu une grande gueule, ouais.
Ah bah tiens, on va lui demander de donner son avis sur ce plat, monsieur Semoun. Alors, incroyable. Ce poulet rôti qui
alors,
est fait pour vous,
que
hein.
Que le riz soit un peu sec, mais
oui,
pas du tout.
On a toujours peur avec le
super
riz.
Bon. Et puis le poulet, bah moi c'est mon plat favori, hein, donc je trouve ça génial. Je sais pas ce que t'en penses, Alice. Alice, c'est bon, hein?
Et ouais, c'est dément.
Juste parce que moi, je suis arrivé en retard, mais le poulet, c'est de quelle origine? Ils avaient choisi.
Un poulet des Landes.
Des Landes.
D'accord. Poulet fermier.
Poulet fermier.
Qui a gambadé. Ouais. Parce que c'est ça qu'il faut aussi dire à nos auditeurs. On parlait de la viande avec Alice, d'en manger moins souvent, mais de meilleure qualité. On oublie le poulet standard de batterie. Et qui ne peut pas se développer et qui est élevé dans des conditions terribles. Et on achète un poulet fermier comme celui-ci. Et on a vraiment une viande qui n'a pas du tout le même goût.
Gambadé, hein.
Là, il est musclé.
Ah ouais,
oui,
est
parce
musclé,
que, oui, parce qu'il y a de la mâche, comme on dit.
Ah ouais. Ah, c'est bon.
Pour ça que vous
mastiquez. Super bon.
Et oui.
C'est vrai, parce que
incroyable.
C'est évidemment beaucoup plus cher. Donc, mais quitte à en manger moins souvent et du meilleur. Quoi.
Et je le dis à nos auditeurs, ils ont à côté de chez eux un éleveur qui fait une volaille comme ça, même si elle n'est pas labellisée, mais qui est bien élevée, qu'ils pourront trouver.
Et on dit que c'est plus cher, certes, mais un poulet fermier, vous pouvez manger à 4-5 dessus.
Ouais, c'est vrai.
Un poulet non fermier, je peux vous dire, vous êtes seul.
Ouais. Ouais.
Et encore, c'est l'inspecteur du Michelin tout seul avec sa carte.
Vous avez raison, ça fait plusieurs repas et avec
c'est
la carcasse.
La même chose.
La carcasse telle que vous l'avez détaillée, on fait un bouillon. Pardon, Ali.
Pardon, non, je suis avec des grands spécialistes, je vais peut-être dire une connerie, mais un plat réchauffé, c'est super bon.
Bien sûr. Un plat mijoté réchauffé,
fois,
oui.
Réchauffé, ouais.
Pot-au-feu, c'est encore meilleur réchauffé.
Ouais.
Bah oui, voilà, par exemple.
Le soir, il y a le fameux bouillon.
C'est ça.
Là, il prend de la dimension. Hein.
Et là, le riz, par exemple, s'il en reste, on peut faire des arancini comme on ferait dans la cuisine italienne, ouais, Camille.
Il n'est peut-être pas assez gluant pour pouvoir, mais si on peut essayer.
Comment avec un peu de colle.
Ouais.
Comment on pourrait faire pour le rendre plus gluant? C'est compliqué, c'est à la cuisson, ça.
C'est moins le rincer.
Ouais. Ah, voilà.
Parce qu'il y a vraiment ce rinçage qui est important, surtout sur ces riz japonais, où sinon ça devient collé, mais non.
Le condimenté, non?
Non, je sais pas. Non, moi je rince mon riz à l'amidon, j'enlève l'amidon de mon riz pour qu'il colle moins dans le...
Voilà. Ouais.
J'ai même appris ça à mon père qui le fait maintenant.
Alors vous êtes à l'affiche de Bad Guys, on le disait, Alice Belaïdi, qui est en salle le 6 avril, et Emmanuel Rubin à vos côtés, critique gastronomique au Figaro, a envie de nous parler d'un bad guy de la cuisine, figurez-vous, qui a sévi en Angleterre, et alors, qui s'appelait...
Marco Pierre White,
voilà.
Lui, c'est un vrai. Hein. D'ailleurs, son surnom, c'était le bad boy de la cuisine. Et il a changé beaucoup de choses, d'abord en Angleterre, parce qu'il a un peu révolutionné la cuisine anglaise, il faut savoir que les Anglais, avant lui... Bien, il mangeait pour vivre et après lui, ils ont commencé à vivre pour manger et il a créé d'ailleurs ce qu'on a appelé la New British Food avec tout un tas de disciples qui aujourd'hui font qu'on mange certainement mieux à Londres et en Angleterre qu'on mangeait avant lui. Mais surtout, dans les fins des années 80, début des années 90, ce Marco Pierre White, il va faire ce qu'ont les Anglais ont su faire avec les Beatles dans les années 60 ou George Best dans le foot dans les années 70, c'est qu'il va révolutionner l'idée et l'image du chef. C'est vrai que c'est une gueule de loulou, et si aujourd'hui les chefs top chefs, vous savez, tatoués, rasés, piercés, les bobos chefs, eh bien, ils s'autorisent à être un peu comme ça, c'est certainement parce que ce garçon-là a changé les codes.
Mais chez lui, rien n'était surjoué, c'était pas de la cosmétique, non. C'était sincère.
C'est un peu comme les Beatles, là, encore. Un vrai gamin de la classe populaire, de la working class, il est en 61 à Leeds, il connaîtra jamais sa mère, ou très peu, il parlera jamais de son père, et à 17 ans, un peu par hasard, il se retrouve dans un hôtel à Leeds, où il apprend le métier, et selon ses propres dires, l'hôtel était dégueulasse et on passait son temps à beurrer les tartines. Il parle comme ça. Hein.
Joli
programme. Il y a un fucking toutes les 5 minutes avec Marco Pierre White. Mais dans le même instant, il a découvert ce qu'était ce restaurant. Il s'est dit, c'est là-dedans que je vais bosser. Je vais bosser dans un restaurant. Il monte à Londres. Là, il va taper l'incruste. Il n'y a pas d'autre mot dans les meilleurs restaurants, tous des restaurants français à l'époque. Il va finir par y rentrer. Il va apprendre le métier et il va l'apprendre très vite. Jusqu'à prendre très rapidement, là encore, son indépendance, puisqu'à 28 ans, il ouvre un resto qui s'appelle Harvey's. On est à Londres, c'est son premier resto, et là c'est de la folie, parce qu'il casse tous les cols. Alors d'abord lui, il a les cheveux longs, il porte pas de toque, ça paraît rien, mais aujourd'hui c'est presque banal, les chefs n'en portent plus, mais à l'époque
c'est
révolutionnaire.
The Next Chef, comme faisait Jamie Oliver.
Exactement.
Il s'est fait connaître comme ça, sans
il
toque.
A les pantalons, les chaussettes qui baillent, les cheveux longs, il clope, il dort dans son resto.
Il écrase les clopes dans les plats,
c'est génial.
Je te jure, parfois tu retrouves un mégot,
il prenait ses coquilles d'huîtres, il les cloutait dans sa cuisine avec des slogans. C'est un chef punk.
Mais il a du talent. Mais il a du talent.
Il est bourré de talent. Alors, si, il y avait une chose qui avait été étonnante. Alors, je vous passe les gonzesses. Il a eu 3 mariages. Il était plus un chef de talent que de tabloïd.
Mais
il y a un truc. Non, parce qu'aujourd'hui, il a pris sa retraite. Parce qu'il a repris sa retraite. Il a eu plusieurs restaurants, mais il en a un peu marre. En revanche, ce qui est drôle, c'est qu'il avait aussi changé les codes en disant, moi, le client roi, ça n'existe pas chez moi. Donc, les gens qui allaient chez Harvey se faisaient un peu rudoyer. Et donc, dès qu'ils sentaient un snob et un mec qui minaudait sa cuisine, ils le foutaient à la porte. Donc, c'est vrai qu'il a énormément de talent parce que, dans le même temps, il vit son métier véritablement comme une science des produits. Dis-moi, mon métier, c'est une leçon de choses, c'est de la botanique. Il va révolutionner, ça sera le premier chef anglais à avoir 3 étoiles Michelin. Pour la petite histoire, quelques années après, il leur dira « j'en veux plus de vos étoiles, vous les reprenez ». Donc vraiment, un loulou des casseroles. Et puis, dans le même temps, c'est vrai qu'il va surtout faire quelque chose, c'est qu'il va décomplexer les Anglais, la jeune génération de chefs, avec la cuisine. Et il va, comme ça, former plein de gamins, plein de mecs qui vont devenir des vrais stars. Et l'un d'eux, lui aussi, est un chef gastropunk qu'on connaît plus parce qu'il va faire cauchemar en cuisine, c'est le fameux Gordon Ramsay. Et
oui.
Alors, il a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'il dit « j'adore la France et je dois tout à la cuisine française ». Mais il est allé une seule fois en vérité en France. Ça a duré 24 heures, il a passé son temps sur les champs de course. Donc en fait, la France, il la connaît très peu, simplement pas.
Marco Pierre White.
Franchement, il a écrit pas mal de livres de cuisine, vous allez voir. Allez, vous plongez dans ses livres. Si vous lisez en anglais, ce n'est pas votre cas, j'imagine, mon
mais
cher Laurent.
Je ne vous permets pas.
Mais sa biographie...
Il a raison, on a entendu ton anglais, c'est pourri.
Sa biographie est géniale, c'est un vrai roman. Et puis, allez voir sur Internet les photos de lui jeune. Vous allez voir, ça, ce n'est pas un chef, c'est un loulou. Mais vraiment, voilà. C'est un personnage qu'il faut avoir connu.
Le loulou Marco Pierre White. Un peu comme vous, qui êtes un loulou de la critique gastronomique. Ah oui, effectivement. Oh. Eh oui, ah oui.
Il est considéré comme un très très beau mec. Hein. Il posait dans les magazines qu'il voit.
C'était un compliment. C'est l'heure de passer au dessert. Et un dessert choisi spécialement pour Alice Belaïdi. Oh là là, ça va être dur de résister. Il n'est pas question de résister.
Il est trop beau.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un cheesecake.
On m'a dit que vous aimiez le cheesecake.
De toute façon, j'adore les desserts. Donc, il y a peu de desserts que j'aime pas, à part les trucs au café ou quoi. Mais je suis très, 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 très sucrée, quoi. Donc, voilà, vu que c'est très sucré.
Et celui-ci vient de chez Marcel, qui est une adresse que vous aimez, je crois.
Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas mangé, en plus.
Et ben voilà, c'est spécialement pour vous. Marcel, on va dire que c'est un délit franco-américain. À Paris, il y en a plusieurs. Il y en a un à Villa Léandre, il y en a un rue Montmartre, il y en a un autre rue de Babylone. Et effectivement, tout est fait maison, mais c'est une ambiance franco-américaine. Comme ça, on peut faire des breakfasts, on peut faire des lunchs, des brunchs. Et on peut goûter, surtout,
et
évidemment.
La croûte, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais
si,
c'est,
si, si, si. la pâte.
La pâte, c'est quoi?
Ben, elle peut être faite avec des spéculoos.
Ouais, c'est des spéculoos, c'est beaucoup de beurre. Hein,
Ah oui, c'est riche. Hein. Attendez, c'est.
Le cholestérol, pas, c'est pas.
Ah non, non, c'est pour entretenir son taux de cholestérol.
Oui, voilà, voilà.
Vous, vous confirmez, alors, Camille Saint-Bleu?
C'est bon.
C'est super bon.
Votre poulet était à tomber. Je le dis aux auditeurs, on retrouvera la recette sur europe1.fr. En tout, vous l'avez cuit combien de temps? Puisque maintenant, ça y est, on arrive à la fin de l'émission.
Celui-ci, 50 minutes.
50 minutes.
Ouais. C'est cuit.
Température du four?
175, 180. Enfin, 175, on va être simple.
Pas trop fort, quoi.
Pas trop fort.
Et le riz pilaf, combien de temps de cuisson pour qu'il absorbe tout le jus et le bouillon?
Alors, 15 minutes au four, et après, on le laisse tirer 15 minutes avec la cocotte fermée, et puis hop.
Voilà, quand on dit tirer, c'est continuer avec l'inertie de la chaleur à absorber. Attends,
pour moi, c'est autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un loulou des.
Vous êtes un loulou de l'humour, vous.
L'expression. Un sacré loulou.
C'est un bonheur de vous avoir à table, en tout cas, parce que vous faites honneur à tous les plats. Alors, c'est bientôt l'heure de se dire au revoir, les amis, et je voudrais qu'on finisse avec vos coups de cœur pour nos auditeurs. Ça peut être un spectacle, un livre, une recommandation. Je commence par vous, Alice Belaïdi.
Alors, moi, c'est un peu à contre-courant, mais là, en ce moment, je suis à fond dans Formula One sur Netflix.
Les coulisses de la Formule 1.
Les coulisses de la Formule 1, j'adore la Formule 1, mais je commence quand même, c'est vrai, parce que j'ai plein de copines qui me disent « Ouais, mais t'aimes un sport où il n'y a pas l'équivalent féminin, tout ça. » Donc c'est vrai que j'ai absolument très, très, très hâte qu'il y ait le Formula 1 avec les nanas, parce que je me dis, je suis sûre qu'il y a des pilotes femmes incroyables. Donc j'ai hâte que la Formule 1 ouvre ses portes aux filles. Mais voilà, là, le championnat a repris cette semaine.
Et la nouvelle saison. Et cette année, en revanche, dans cette saison Formula One, Verstappen a refusé de participer à la série.
Ça m'étonne pas.
On ne le verra pas. Verstappen, mais quel pilote, quel pilote.
Un pilote incroyable.
Incroyable,
mais, bon, pas
mais,
très
mais effectivement, mais très, très concentré sur ses résultats. Élise
Moon. Loulou de l'automobile, je dirais. Allez, c'est quelqu'un qui crache et qui pète. Un coup de cœur. Alors,
coup de
cœur, je vais aider. Attendez, alors un coup de cœur. Oui, j'ai été voir un copain jouer, notre ami Loïc, dans une pièce qui s'appelle Berlin.
Loïc comment?
Loïc Legendre, pardon.
Oui.
Et j'ai adoré.
Berlin.
Alors, ils n'ont pas besoin de publicité parce qu'ils sont pleins à craquer.
Oui, mais c'est bien de le dire.
Et c'est Patrick Audecoeur qui a fait cette pièce. Il avait fait Thé à la menthe ou Thé citron.
Ah oui.
Il est suivi par des fidèles depuis des années et des années. Et la pièce est fantastique.
Eh bien, merci, Élise Moon.
Et Anne Charrier aussi. Non.
On arrive à la fin de l'émission. Merci d'être venu. Je rappelle Bad Guys, qui sort le 6 avril avec vous, Alice Belaïdi, dans le rôle de Diane Foxington. Et puis, Élise Monstre en tournée. On mettra les dates sur europe1.fr.
D'accord.
Bien sûr. Et puis.
Un épisode du Capitaine Marlowe.
Le 1er avril avec Corinne Maziero, voilà. Où on vous retrouve en gendarme.
Tout à fait.
Mes respects, monsieur de la maréchaussée.
Je vais te demander de te mettre sur le côté, s'il te plaît. Je vais surveiller un peu d'où viennent ces 5 euros.
Merci Emmanuel Rubin et merci à vous Camille Saint-Bleu pour ce festin du dimanche, joli repas du dimanche. Et on peut aller goûter votre cuisine à la Villa 9-3 à Montreuil. Une très belle table et vous avez 26 ans. Vous nous aviez menti au début, vous avez dit 25, on s'est renseigné, vous avez 26.
Il est menteur.
Un sacré loulou. Merci David Ordonneau, la rédaction en chef, Claire Dutron à la programmation et à la rédaction avec Marion Sauveur, Loïc Vimard à la réalisation. Merci Fabien à la technique. Et puis dans un instant, vous avez rendez-vous avec Thierry Dagiral.
Loulou de la technique, Fabien, un petit peu rebelle, un petit
bon
peu
week-end.
Loulou. Allez mon loulou.
J'adore l'expression.
C'est un sacré loulou.
Sacré loulou. Qui ne se dit plus.
C'est top, hein. L'estragon. Avec le poulet.
Mais ça fait quoi ce
truc-là?
Ça redresse. Ouais, ça rafraîchit, c'est bon.